Notre soutien à l'Ukraine perdurera. Rien que cette année, nous avons débloqué 12 milliards d'euros pour aider à payer les salaires et les pensions. Nous avons contribué au fonctionnement des hôpitaux, des écoles et d'autres services. Et grâce à notre proposition ASAP, nous augmenterons la production des munitions pour répondre aux besoins immédiats de l'Ukraine.
Bonjour, je suis Vincenzo Genovese, journaliste basé à Bruxelles, où je couvre l'actualité européenne.
Et moi, c'est Hermine Doncel, également journaliste à Bruxelles. Aujourd'hui, nous parlons d'une mesure historique prise par l'Union européenne. Pour la première fois, des fonds européens seront utilisés pour financer la production d'armes, en particulier des munitions, dans les États membres.
Je suis conscient que l'adjectif historique est sans doute rabâché dans les discours politiques. Mais là, je ne vois pas d'autre façon de qualifier cette décision. Le 20 mars 2023, les dirigeants de l'UE ont convenu d'une approche en trois volets pour accélérer la livraison et l'approvisionnement commun des munitions pour soutenir l'Ukraine contre l'invasion russe.
Au cours de l'été, l'Ukraine a tiré entre 6 000 et 7 000 obus d'artillerie par jour, selon un rapport du ministère estonien de la Défense. L'UE s'est engagée à fournir à l'Ukraine 1 million d'obus sur 12 mois, à la fois en fournissant ceux qui se trouvent dans les stocks des États membres et en achetant de nouveaux obus de 155 mm. Mais les pays européens devraient également reconstituer leurs propres stocks, plutôt limités, épuisés après plus d'un an de guerre, et augmenter leur production pour soutenir l'Ukraine si la guerre se poursuivait. Peu après, le 3 mai, la Commission européenne à Bruxelles a présenté une proposition de règlement établissant l'acte de soutien à la production de munitions, ou ASAP, qui en anglais signifie également « dès que possible ». L'objectif était en effet de fournir rapidement à l'industrie européenne de l'armement 500 millions d'euros pour accélérer la production de munitions sol-sol et d'artillerie, ainsi que de missiles, pour soutenir l'Ukraine. Le règlement, qu'on appellera donc ASAP, a bénéficié d'un parcours législatif préférentiel. Grâce à cette procédure accélérée record, il a été approuvé par toutes les institutions de l'Union européenne, le Parlement européen et le Conseil donc, le 24 juillet dernier. Lors du vote final à l'Assemblée européenne, à Strasbourg, 505 parlementaires ont voté en faveur du texte, contre 56 qui étaient opposés et 21 abstentions. En fait, même du côté gauche de l'Assemblée, traditionnellement plus réticent aux augmentations des budgets de défense, seul le groupe gauche ou left s'y est opposé, ainsi que quelques députés non inscrits et des dissidents d'autres familles politiques.
Pour comprendre la raison de cet énorme consensus, j'ai rencontré à Strasbourg Ville Niinistö, un député européen finlandais du groupe des Verts ALE, qui était ce qu'on appelle un rapporteur fictif pour les dossiers, c'est-à-dire quelqu'un chargé de négocier les sujets pour son groupe politique. Lors d'un premier vote sur la question en juin, son groupe s'était abstenu, mais les amendements ultérieurs au règlement l'ont convaincu de soutenir les textes.
Un paragraphe spécifique a été inséré pour s'assurer que ces ressources complémentaires, avec l'augmentation de la production de munitions, sont destinées à l'Ukraine. Ensuite, il s'agit également d'approvisionner nos propres stocks qui ont été épuisés en soutenant l'Ukraine. Ce sont donc les seuls objectifs de l'augmentation de la production de munitions.
Ville Niinistö reconnaît que l'UE doit être prudent lorsqu'il examine la valeur ajoutée réelle de telles décisions, mais il est convaincu que les règlements ASAP, en permettant à l'Ukraine de se protéger contre l'invasion russe, contribuent à soutenir la démocratie.
Le règlement ASAP vise à encourager la production de produits de défense spécifiques, à savoir des munitions, sol-sol et artillerie, ainsi que des missiles. Il établit un cadre basé d'une part sur des mesures financières, pour soutenir le renforcement industriel tout au long de la chaîne d'approvisionnement, et d'autre part, des mesures réglementaires harmonisées, pour garantir la disponibilité des produits de défense en temps voulu et en quantité suffisante. Son enveloppe financière de 500 millions d'euros provient de réaffectations urgentes d'autres programmes existants déjà liés à la défense, comme le Fonds européen de défense ou la loi sur le renforcement de l'industrie européenne de la défense par des acquisitions communes, plus simplement appelée EDIRPA.
Toutefois, il existe des sources de financement cumulatives et alternatives qui permettent aux États membres d'inclure des projets liés à la ZAP dans leurs plans nationaux modifiés de redressement et de résilience. Ces fonds d'État, initialement destinés à aider les pays de l'UE à se remettre de la pandémie, cette option a suscité la controverse dans certains pays de l'UE, comme l'Italie, où le gouvernement s'est engagé à ne pas utiliser les fonds de la prochaine génération pour investir dans son industrie militaire. Les entités industrielles souhaitant bénéficier de ces financements doivent démontrer qu'elles augmenteront leur capacité de production dans l'Union et qu'elles assureront globalement une livraison en sa sorte à l'Ukraine, notamment en réduisant les délais de livraison. Ces entreprises sont également encouragées à mettre en place une coopération transfrontalière, comme l'a expliqué Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur.
Alors, le principe, c'est un cofinancement à hauteur de 40% par l'Union européenne et de 60% par les États membres ou les entreprises, avec éventuellement un bonus de 10% en cas de partenariat. On encourage évidemment, et j'ai encouragé en permanence les entreprises à travailler en partenariat, à créer des joint ventures, à commencer à bâtir une vraie plateforme européenne interconnectée. Et puis 10% aussi de bonus complémentaires pour ceux qui vont prioriser l'ensemble de leur production sur l'Europe, momentanément en tout cas.
La Commission a également la possibilité de récupérer la subvention qu'elle a accordée pour soutenir la production si les munitions produites se retrouvent entre de mauvaises mains, m'a aussi expliqué Villeninisto.
Nous pouvons soutenir l'augmentation de la production de munitions lorsqu'elle est destinée à soutenir l'Ukraine et notre propre défense. Il y a donc une exclusion dans le règlement pour ne pas soutenir les exportations vers d'autres pays tiers. Et il y a aussi une limitation pour ne pas prendre l'argent des fonds de cohésion et utiliser d'importantes politiques sociales à d'autres programmes.
Pour Jean-Pi, secrétaire général de l'Association européenne des industries et de l'aérospatiale de la sécurité et de la défense, la ZAP est, et je cite, un pas important vers l'adaptation de la base industrielle et technologique de défense européenne au nouvel environnement de sécurité. Mais si peu de voix semblent s'élever contre ces règlements historiques, quelles critiques se font, malgré tout entendre? Au cours d'une session plénière très chargée du Parlement européen à Strasbourg, en juillet, j'ai rencontré Marc Bottenga. Il s'agit d'un député européen belge du groupe de la gauche LEFT, qui siège également à la Commission de l'Industrie. Il était aussi rapporteur fictif pour les règlements ASAP. Bottenga considère en effet que la loi de soutien à la production des munitions est illégale, car elle n'est pas conforme aux traités européens.
Il y a un article dans le traité, l'article 41, paragraphe 2, qui dit en gros que les opérations ayant des implications militaires de défense ne doivent pas être imputées au budget de l'UE. Or, il est très clair que lorsque vous commencez à produire des armes, à financer la production d'armes, il y a des implications militaires, bien sûr. C'est pourquoi, à mon avis, ce n'est pas légal, ce n'est pas conforme à l'objectif du traité. D'ailleurs, si la Banque européenne d'investissement veut contribuer à ce programme, elle devra modifier ses règles internes, car là aussi, elle exclut la production d'armes de ce qu'elle devrait soutenir.
Il estime surtout que la fourniture d'armes à l'Ukraine n'est pas l'objectif principal de ces règlements. Le véritable objectif est de relancer l'industrie européenne de la défense et de créer un complexe militaire-industriel intra-européen financé par des fonds publics. Un objectif qu'il n'approuve pas du tout.
Je ne pense pas qu'il s'agisse uniquement de l'Ukraine. D'ailleurs, si vous lisez le texte, l'Ukraine est presque un détail. Il s'agit donc de financer et de créer un complexe militaro-industriel au sein de l'Union européenne, financé par l'argent public. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire comme ça sans véritable débat démocratique. Cette décision a été imposée en moins de 2 mois. C'est un manque de démocratie.
Une autre de ses préoccupations concerne les droits des travailleurs.
En effet, même si nous avons réussi, grâce aux syndicats, à retirer la demande d'allongement de la durée du travail, nous constatons déjà en France et en Allemagne que les entreprises veulent que les travailleurs travaillent plus longtemps et d'une manière différente. Et cela va être très négatif sur le plan social.
Il ne fait aucun doute que les responsables européens, de la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, au diplomate en chef de l'Union européenne, M. Borrell, ont toujours défendu dans leurs interventions publiques le lien entre la nécessité de soutenir l'Ukraine et la relance de l'industrie de l'armement, pour le moment dormante, dans l'Union européenne. Mais il est également vrai que la guerre en Ukraine a servi de sonnette d'alarme pour la politique de défense et de sécurité de l'Union européenne. Depuis les relations avec l'OTAN jusqu'à l'idée d'une armée commune, comme nous l'avons déjà étudié dans un épisode précédent de Voices from Brussels. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Le Parlement européen a récemment approuvé la loi EDIRPA, instrument à court terme pour le renforcement de l'industrie européenne de la défense par des acquisitions communes dotées d'un budget de 300 millions d'euros pour financer des achats groupés effectués par au moins 3 États membres ensemble. Parallèlement, les fonctionnaires de l'UE poussent les États membres à augmenter leur budget de défense. Après tout, lorsqu'il a présenté le règlement ASAP, M. Breton a exhorté les entreprises européennes du secteur de la défense à se mettre en mode économie de guerre. À mesure que la guerre s'éternise, l'Ukraine et l'Union européenne en général risquent d'être de plus en plus laissées à elle-même pour faire face à son coût et à ses autres retombées. Volodymyr Zelensky s'en est peut-être rendu compte lors de sa visite aux États-Unis. Les politiciens républicains sont de plus en plus tièdes face au coût du soutien à son lointain pays. L'eurodéputé Rasa Yuknevich-Nye, membre du Parti populaire européen de centre-droit, exprime justement ce sentiment dans un entretien avec nos collègues de Žinių Radijas en Lituanie.
Les pays de l'Union européenne doivent changer leur approche de la sécurité et de la défense pour augmenter leurs dépenses. Ce n'est pas seulement parce que l'administration américaine peut changer et que l'attitude des politiciens changera, mais aussi parce que la population américaine commence à se demander pourquoi tant d'argent devrait être dépensé pour la défense, alors que certains pays, comme l'Allemagne, ne sont pas en mesure de dépenser 1,5% et qu'ils consacrent plutôt cet argent à la protection sociale de leur population.
Qu'il s'agisse d'une mesure favorable à l'intégration européenne ou d'une décision imposée par un environnement de plus en plus hostile, l'Union européenne est prête à accroître sa production militaire et ne lésinera pas sur les moyens pour parvenir à ses fins. L'avenir nous dira si cela suffira à relever les défis de l'armement de l'UE. C'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai bientôt avec d'autres histoires et sujets sur l'Europe qui sont en discussion ici à Bruxelles. Restez à l'écoute.